Printemps arabe, mouvement citoyen, rébellion, armée, djihad. 50 ans après les indépendances, les luttes africaines sont au cœur de l'actualité et imposent un autre regard sur le continent noir. Une invitation saisie par la 6e conférence européenne des études africaines, l'ECAS et sa semaine culturelle. Penser l'Afrique autrement, c'est du 5 au 12 juillet à Paris et en avant-première dans la Marche du Monde.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Deux mille chercheurs et acteurs de la société civile sont attendus au Panthéon et à la Sorbonne afin de réfléchir aux mobilisations collectives en Afrique pour penser l'Afrique autrement. Et pour penser l'Afrique autrement, justement, je reçois Françoise Blum, spécialiste d'histoire sociale africaine. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Boilet, spécialiste de l'Afrique subsaharienne, du Sahara et des Touaregs. Bienvenue.
Merci, bonjour.
Dominique Malaquet, spécialiste des cultures urbaines sur le continent. Welcome.
Thank you.
Et Ophélie Rillon, post-doctorante. Vous vous intéressez à l'histoire des luttes sociales et politiques en Afrique. Salam, Ophélie.
Bonjour.
Une première question à vous, Pierre Boilet, à laquelle j'aimerais d'ailleurs que vous répondiez ensuite tous. Penser l'Afrique autrement, qu'est-ce que cela suppose comme révolution de la pensée en tant que chercheur?
En tant que chercheur, peut-être pas tant de révolution que ça, parce qu'on est quand même assez habitué effectivement à essayer de penser l'Afrique autrement. Mais ce que l'on voudrait, c'est arriver à faire passer justement cette façon de penser l'Afrique autrement à travers cette manifestation, à travers ces émissions. C'est-à-dire en fait éviter de mettre en avant, comme d'habitude, tout un tas de stéréotypes que plutôt le grand public, mais aussi bien sûr certains chercheurs encore ont. Alors le fait par exemple que l'Afrique a une histoire et qu'elle est bien rentrée dans l'histoire depuis très longtemps et puis à peu près en même temps que tous les autres humains, qu'il n'y a pas une mais des Afriques, mais que l'Afrique n'est pas homogène, qu'il n'y a pas des guerres partout tout le temps. Mais on peut évoquer aussi le fait qu'il n'y a pas forcément d'une coupure extraordinaire dans le Sahara entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. D'ailleurs, on n'utilise plus ces mots Afrique noire, par exemple. Et puis, enfin, peut-être justement par rapport à cette manifestation, le fait que l'Afrique est aussi dynamique dans les arts d'une part, mais aussi même dans l'économie et dans l'évolution politique.
Françoise Blum, on évoquait à l'instant l'histoire africaine. L'Afrique a toujours été dans l'histoire. De votre point de vue, Françoise Blum, justement, penser l'Afrique autrement par rapport à l'histoire de l'Afrique, qu'est-ce que ça signifie?
Mais écoutez, moi je ne peux vous parler que d'une expérience un peu personnelle, parce que je suis venue à l'histoire de l'Afrique assez tard, et j'y suis venue par le biais d'un silence historiographique qui m'a vraiment étonnée.
Et voilà.
Ce silence historiographique, c'était le silence sur les mouvements dits des années 68, et sur les terrains africains, il n'y avait quasiment aucune étude. Je me suis donc dit, c'est quand même bizarre, l'Afrique est dans le monde, c'est un mouvement social mondial, que s'est-il passé? Et je me suis rendu compte à cette occasion qu'il y avait eu en Afrique autant de mouvements, de luttes, d'alliances travailleurs, étudiants, etc., que sur les autres continents à ce moment. C'est-à-dire que l'Afrique était non seulement dans l'histoire, ce que l'on sait, mais qu'elle était aussi parfaitement dans le monde et en connexion avec les autres continents, les mouvements globaux. Et je pense que dire que l'Afrique est dans l'histoire, il faudrait aussi peut-être insister sur le fait que l'Afrique, quelque part, réussit une globalisation parfois mieux que certains autres continents.
Alors une Afrique dans l'histoire, une Afrique également active, Dominique Malaquet, et vous, vous êtes particulièrement intéressé aux artistes engagés.
Vous avez commencé avec de la musique de Fela Kuti, qui est l'emblème même de ce genre d'engagement auquel je m'intéresse, c'est-à-dire penser une Afrique à travers ses artistes comme profondément intéressée par le politique, par les changements économiques, par les changements sociaux et le passage à travers des actes, notamment de performance, qui sont absolument capitaux, non seulement dans l'histoire de l'art de l'Afrique, mais de façon plus générale. On tend par exemple à penser la performance comme quelque chose qui a été inventé en Europe, peut-être en Amérique du Nord. Et en fait, la performance a des racines très profondes en Afrique et des racines qui sont intimement liées à un engagement avec le politique. Et c'est donc ce que j'essaye, ce que nous essayons de faire passer à travers cette semaine culturelle qui accompagne l'ECAS.
On définirait comment le mot performance?
On le définirait par une relation entre l'acteur et le spectateur qui fait tomber la différence entre les deux, telle que le spectateur devient partie prenante et intégrale de ce qui se fait sur scène, et très souvent, bien sûr, la scène est complètement absente.
Alors on parle d'une Afrique dans l'histoire, on parle d'une Afrique active et engagée à travers ses artistes et ses militants. On parle aussi d'une Afrique insoumise, Ophélie Rion.
Oui, tout à fait. Alors moi, je me suis intéressée en fait aux mouvements sociaux, aux révoltes, aux révolutions, aux insurrections, quelles qu'elles soient en Afrique au XXe siècle. Mais bien entendu, elles ont des racines bien plus profondes et il y a eu des résistances et des révoltes bien avant le XXe siècle. Donc voilà, c'est à toute cette histoire que je m'intéresse et plus particulièrement en fait aux femmes insoumises et aux rapports de genre, à la construction de la différence des sexes dans ces luttes et au travers des sociétés africaines. Que ce soit des résistances et des insoumissions féminines, individuelles ou collectives, à travers l'histoire.
Les insoumises sont des syndicalistes, sont des femmes politiques. Qui sont-elles ?
Oui, toutes sortes de femmes. Des femmes militantes syndicales, politiques, associatives, des artistes aussi, qui s'engagent et qui veulent changer soit leurs conditions, elles, en tant que femmes, soit transformer la société dans toute sa profondeur.
Une Afrique dans l'histoire, une Afrique active. Une Afrique insoumise, c'est penser l'Afrique autrement, telle que vous le proposez, Pierre Boilet, avec cette conférence. C'est une première, cette fois à Paris, c'est la 6e conférence européenne des études africaines. Ce thème même de la contestation, c'est un thème qui vous préoccupe depuis des années.
Oui, c'est un thème qui nous préoccupe depuis des années. Alors c'est la contestation, mais dans toutes ces dimensions. Donc, Ophélie a parlé par exemple de rébellion. Ça peut être aussi, par exemple, la résistance à la colonisation. Donc, il y a tout un tas de dimensions qui sont effectivement des dimensions qui nous intéressent depuis très très longtemps et qui peut-être se renforcent actuellement parce que donc il y a là aussi, on en parlait tout à l'heure, cette idée que l'Afrique est passive, que les gens dorment tout le temps au soleil qui existe maintenant en France aujourd'hui, mais et que donc par conséquent, donc ce sont des gens qui subissent. Non, justement, c'est ça qu'on veut montrer. C'est aussi un des stéréotypes que l'on peut casser. C'est une Afrique qui bouge et qui se prend en main.
Des conférences, de multiples communications seront présentées autour de nouveaux angles d'attaque. Que faites-vous, par exemple, de la question des ethnies ? Parce que moi, j'ai regardé partout, c'est un angle que je n'ai pas trouvé. C'est une grille d'analyse éculée et omniprésente dans les médias et incontournable pourtant pour de nombreux spécialistes.
Les ethnies, justement, je suis très content de voir qu'on ne les trouve pas dans le programme parce que c'est un vieux problème que moi personnellement, mais je suis pas tout seul, je m'acharne à casser. C'est un élément de langage qu'on peut dire qui n'a aucun intérêt scientifique en pratique. Hein. En fait, on n'arrive pas à définir une ethnie pour commencer. Et chaque fois qu'un auteur essaye d'utiliser ce mot, il est obligé de faire sa propre définition. J'en ai dit, j'ai dû en collecter dans un article plusieurs centaines, donc c'est pas la peine de l'utiliser. Et des gens comme Max Weber ou Hobsbawm disaient que c'était des concepts à jeter par-dessus le bord du bateau. Bon. Donc, de fait, les spécialistes l'utilisent de moins en moins. Les journalistes l'utilisent encore pas mal, mais de moins en moins aussi, parce que je crois qu'ils ont compris. Et en tout cas, c'est une lecture qui n'est pas suffisante pour pouvoir expliquer les crises en Afrique.
L'ECAS, la 6e conférence européenne des études africaines, se déroule à Paris dès ce week-end et en avant-première sur RFI. C'est une invitation à la réflexion et à l'écriture de l'histoire longue de l'Afrique à travers ces mobilisations collectives, on l'a dit, et notamment à travers des autobiographies de femmes activistes. Et ce n'est donc pas l'histoire des présidents africains que vous allez nous proposer, Ophélie Rion.
Oui, tout à fait. Alors moi, j'organise un panel autour des autobiographies de militantes et tout l'enjeu est d'exhumer ces sources qui sont beaucoup moins connues, même si elles ont été publiées pour certaines, qui sont ces récits de soi féminins et qu'avec mon collègue Didier Monceau, on envisage d'étudier sous l'angle de l'essai politique et aussi comme source pour appréhender ces trajectoires féminines, ces expériences intimes, ces projections d'elles-mêmes et comment est-ce qu'elles se projettent en tant que militantes.
Alors c'est en fait effectivement tout un pan de l'histoire africaine qui reste quand même énormément à écrire à travers ces actrices. Je vous propose tout de suite d'écouter la voix de l'une d'entre elles. Beaucoup de femmes militantes la considèrent comme leur mère, Madame Jacqueline Kizerbo, épouse de Joseph Kizerbo, le grand historien burkinabé, décédé en 2006. Madame Kizerbo fait partie de la première génération des cadres africains qui ont contribué à l'éveil des consciences africaines.
Au départ, je suis d'abord professeur d'anglais. Donc, j'ai commencé à enseigner en 1958, au moment où l'Afrique se trouvait au carrefour de la colonisation et de l'indépendance. Et lorsque le président Sékou Touré a lancé un appel aux cadres africains pour qu'ils viennent en Guinée soutenir l'indépendance de la Guinée, je suis partie en Guinée avec mon mari. Et là, j'ai enseigné aussi l'anglais, puis j'ai dirigé le cours normal de jeunes filles de Conakry.
En 1960, Jacqueline Kizerbourg rejoint son mari à Ouagadougou et prend la direction du cours normal de jeunes filles, un engagement auprès des femmes dont l'origine remonte à l'université.
Je peux dire que dès le départ, le combat pour la femme a fait partie de ma vie. C'est depuis les bancs de l'université que j'ai commencé à faire des conférences sur la puériculture, sur l'éducation des enfants. Et puis, petit à petit, cette occupation secondaire, si je puis dire, est devenue mon occupation principale. Pendant 15 ans, j'ai dirigé un établissement de jeunes filles en essayant de leur montrer que ce n'est pas parce qu'on est une fille qu'on ne peut pas être aussi intelligente et aussi travailleuse que les garçons. Travailler dans un établissement, c'était très bien. Mais il fallait aussi s'occuper des femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Des femmes adultes qui, elles aussi, ont besoin d'être conscientisées, de prendre conscience du rôle essentiel qu'elles jouent dans la vie des familles, de ces familles qui constituent la base de la nation.
Militante de la condition féminine, Jacqueline Kizerbourg ne se considère pas pour autant comme une militante féministe.
Militante, oui. Féministe, non. Je suis une militante parce que j'ai des convictions. Je crois en des causes. Je suis une militante de la libération de chaque être humain, qu'il soit homme ou femme. Je suis une militante du plein épanouissement de tout être humain. Et surtout, je suis une militante du panafricanisme, de l'unité africaine. Ceci dit, j'ai peut-être consacré beaucoup de mon temps à la promotion de la femme, mais je ne me suis jamais sentie féministe au sens où le mot féminisme implique souvent une approche conflictuelle des problèmes de l'homme et de la femme. J'estime que dans le contexte africain, ce féminisme est malvenu. Pour le développement de notre continent, hommes et femmes doivent être du même côté et faire front à l'ensemble des difficultés de notre continent. Et donc, je suis pour la promotion de la femme, l'émancipation de la femme, le plein épanouissement de l'être humain féminin, mais en harmonie avec l'homme, au coude à coude avec l'homme, dans un combat commun.
La voix de Jacqueline Kizerbourg, éducatrice et héroïne méconnue des années 60 et du panafricanisme. Est-ce une oubliée de l'histoire, Ophélie Rion ?
Alors, une oubliée de l'histoire, plus ou moins, parce que les chercheuses qui travaillent sur les femmes militantes, forcément, connaissent Jacqueline Kizerbourg. Et après, c'est vrai qu'elle est toujours restée dans l'ombre de son mari, d'un point de vue de ses engagements. Elle-même va se présenter, là on l'a entendu, davantage comme une militante des droits des femmes, alors que c'était aussi une militante syndicale et une militante politique très active, qui a été arrêtée en 66, qui a participé à la chute
du premier président de Volta.
Donc en fait, c'est quelqu'un qui a des engagements politiques très forts, qui, avec son époux, donc est parti en 58, au moment du nom de Sékou Touré en Guinée, elle est partie construire la Guinée en tant qu'intellectuel panafricain de cette époque-là. Voilà, ils se sont mis au service de Sékou Touré et c'est là qu'elle a pris la direction de l'école des filles en Guinée.
Donc 2 ans en Guinée à Conakry pour Jacqueline Kizerbo, Françoise Bloom. On voit bien comment les choses ont pu circuler et c'est quand même très très étonnant de voir cette femme émancipée, lettrée à une époque où l'analphabétisme est absolument la règle. Hein.
Tout à fait, mais il faut dire qu'il y avait quand même un certain nombre de femmes qui avaient accédé à un certain degré d'éducation, mais je voudrais surtout revenir un peu sur la Guinée, parce que la Guinée a été vraiment une espèce d'espoir fou au moment du nom de Sékou Touré, bien entendu, et qui a attiré un certain nombre d'intellectuels, dont les Kizerbo, et pas seulement, aussi des intellectuels européens, comme des gens comme Suré Canal, etc. Et il y a eu une grande désillusion qui est arrivée à peu près en septembre-décembre 61, avec le deuxième complot dénoncé par Sékou Touré. Et là, ça a été la cassure entre Sékou Touré et ses militants qui étaient venus à l'aide de la Guinée. Alors qu'ils y venaient avec toute leur foi, toute leur... Sékou Touré a, à ce moment-là, mis en accusation des enseignants qui le contestaient, et pour les intellectuels africains, ça a été une rupture.
Et en revanche, ça n'a pas empêché Jacqueline Kizerbo de poursuivre son rôle d'éducatrice à Ouagadougou, puisqu'elle rentre en 60 et elle prend la direction de l'école normale.
Oui, elle prend à nouveau la direction de l'école normale et elle restera à Ouagadougou en tant qu'éducatrice, militante syndicale, militante politique, jusqu'à la prise de pouvoir par Sankara. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle et son mari s'exilent en fait en 84 pour se rendre à Dakar. Et Dakar va être une plaque tournante de ces militants en exil. Beaucoup d'entre eux, de partout en fait, vont se retrouver à Dakar et ils vont y rester pendant toute la période sankariste et en fait ils seront des opposants au sankarisme pour des raisons multiples.
Ophélie Rillon, Françoise Bloom, Dominique Malaquais et Pierre Boilet sont dans la Marche du Monde, en avant-première des conférences des 8, 9 et 10 juillet. Elle se déroule au Panthéon et à la Sorbonne à Paris. Pensez l'Afrique autrement, c'est juste après les infos sur RFI.
Yeah, we can make it work. We Jacksonians can make it work. Every time. So we better get up, stand up for your rights. Or someone would say we're coming in from the cold. Or another one would say sun is shining and the weather is sweet. And someone would say is this love. And everyone would say everything. Let's move it. What life is really worth?
Lève-toi, bats-toi pour tes droits, chante Bob Marley, l'icône du mouvement Rasta, chantre du panafricanisme. Il rappelle aussi que toute l'histoire n'a pas été racontée dans les paroles de cette chanson, en référence à l'histoire longue et occultée des mobilisations en Afrique. Et c'est le thème de la 6e conférence européenne des études africaines, les CAS, du 8, 9 et 10 juillet à Paris. Un colloque doublé de performances artistiques, ça commence dès ce week-end. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'intégralité du programme sur la page de la Marche du Monde sur RFI.fr.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Et nous retrouvons nos invités spécialistes et amoureux de l'Afrique, des Afriques, Françoise Blum, Pierre Boilet, Dominique Malaquais et Ophélie Rion. Ils sont chercheurs et proposent de penser l'Afrique autrement en s'intéressant aux acteurs et aux actrices des mobilisations collectives en Afrique, des contestations, des résistances et des révoltes. Autant de sujets qui permettent d'interroger la place et le rôle des femmes dans la jeune société civile au moment des indépendances. Nous l'avons entendu avec Jacqueline Kizerbeau, ou encore de questionner le rapport aux politiques des migrants africains, c'est-à-dire leur influence et leur rôle dans l'histoire même de leur pays depuis l'extérieur. Françoise Blum, si nous revenons dans les années 60 et 70, justement après ces indépendances, les migrants sont souvent des étudiants.
Oui, ce ne sont évidemment pas seulement des étudiants, mais on peut considérer que les étudiants sont des migrants, d'autant plus que la frontière, quelquefois, entre étudiants et travailleurs est assez floue, puisqu'un étudiant, quand il n'est pas boursier, ce qui arrive quand même, peut avoir besoin de travailler pour vivre, tout simplement. Donc, la frontière est tenue, et c'est en fonction de ça que Jean-Philippe De Dieu et moi-même organisons, pendant les CAS, dont vous venez de parler, un panel consacré aux migrants et dont l'idée est de prendre ensemble justement travailleurs et étudiants et également de s'intéresser à la fois au pays de départ et au pays d'accueil, que l'accueil soit bon ou mauvais, en général il est plutôt mauvais, mais bon, admettons, pays d'accueil et de départ, et surtout de voir en quoi les résistances et les luttes des migrants sur le territoire du pays d'accueil ont pu influer a posteriori leur lutte dans les pays de départ. Donc prendre les deux ensemble et voir ainsi comment circulent les pratiques militantes, tout simplement.
Alors j'ai rencontré une migrante, Germaine Pitroipa, connue pour son caractère de feu. Elle a été l'une des hauts commissaires de région sous Sankara. C'est à Paris qu'elle a obtenu son diplôme en lettres modernes. C'est aussi à Paris qu'elle a milité à l'UGEV, l'Union Générale des étudiants voltaïques, au sein de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France.
La FEANF rayonnait sur pratiquement tous les continents, même s'ils n'ont pas eu l'occasion dans les autres continents de former une certaine FEANF, mais la FEANF était devenue un creuset dans lequel tous les étudiants d'Afrique noire se retrouvaient. Il y avait les Guinéens, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Voltaïques, les Camerounais, les Tchadiens. Et je vous assure que les prémices d'une unité africaine se faisaient au niveau de cette FEANF-là.
Et justement, quelles étaient vos discussions politiques à l'époque? De quelle façon voyez-vous votre avenir et quelles étaient vos références idéologiques?
Au niveau de la FEANF et de l'UGEV, les perspectives c'était les suivantes, de comment on peut s'organiser pour résister à ce qui se passe dans nos différents pays. Et les idéologies, ça traversait tout. Particulièrement, bon, comme ça bouillonnait culturellement en France ici, il y avait la gauche aussi, l'extrême gauche, les trotskistes, etc., etc. Toutes ces idées-là traversaient notamment tous les étudiants africains. Nos réunions se concentraient de comment apporter notre soutien aux différents peuples en lutte. Et à l'époque, il y avait la perspective de la lutte pour l'indépendance des anciennes colonies portugaises, l'Angola et la Namibie, les colonies. Je me souviens que, bon, ça c'est une anecdote, j'ai fait ma deuxième prématurée en allant à la Cité internationale faire un meeting sur l'indépendance de la Namibie. Et il fallait que je prenne la parole et je suis monté sur une table, j'ai perdu la poche d'eau. la poche d'eau, et, mais sans me rendre compte, mais bon. Et ça, vraiment, c'était une activité que nous menions dans pratiquement toutes les cités internationales pour conscientiser les gens, donner des informations sur la lutte des peuples qui se battent, les Sahraouis, les Érythréens à l'époque. Et franchement, c'était, ça nous captivait tellement que ces activités à elles seules suffisaient pour occuper nos journées et nos semaines. Et je pense que, bon, notamment la lutte contre l'apartheid, ça a été une des causes qui a le plus rassemblé au-delà du continent africain. Et tous les continents étaient représentés à chaque fois que nous avions une manifestation contre l'apartheid. Et parler de la lutte du peuple namibien, parler des Angolais, le Mozambique, c'était notre activité principale. Informer et propager la lutte de ces peuples-là. Vraiment, c'est une période qui permet de savoir qu'on pouvait faire abnégation de ses propres souffrances pour partager avec d'autres des souffrances qu'on n'imagine pas, peut-être chez nous. C'est parce que bon, la domination portugaise, elle n'avait rien à voir avec nous qui avons déjà acquis soi-disant nos indépendances. Mais bon, l'indépendance, elle n'était que formelle puisqu'on voyait à peu près les mêmes situations que certaines colonies qui n'étaient pas encore décolonisées. Mais franchement, c'est des générations entières qui ont été imprégnées de cette idéologie de lutte de libération sur tous les continents.
La voix de Germaine Pitroipa dans la Marche du Monde, leader féminine de l'Union des étudiants voltaïques, ici à Paris, dans les années 70, un phénomène au sein de la FEANF dont elle parle, Françoise Blum, comme d'un creuset panafricain.
En fait, c'était vraiment ça, la FEANF, et les personnes que j'ai interviewées sur la FEANF et leur expérience de FEANF, que ce soit dans la fin des années 50 ou les années 60, ont tous cette espèce d'enthousiasme. Et je crois que là, c'est un phénomène qui m'est apparu à plusieurs reprises. C'est un phénomène, l'exil, quelquefois, nivelle et en ce sens abolit les différences de classe, de culture, etc. Et c'est ce qui s'est passé avec la FEANF. Le sentiment de solidarité l'emportait sous toute autre considération qui aurait pu être justement de différence de statut social ou autre. Alors, c'est une femme qui parle de la FEANF. À la FEANF, il y avait différentes manières d'être à la FEANF, hein, parce que moi je travaille plus spécifiquement sur le comité exécutif de la FEANF et je suis les trajectoires postérieures des gens qui ont été. Mais il y avait aussi une manière d'être à la FEANF qui était de participer aux réunions, aux conférences, etc. Et là, le rôle de la cité universitaire du boulevard Jourdan, de la cité universitaire d'Antony, ou d'un lieu que tous ceux qui s'en souviennent aiment beaucoup se rappeler, Ponia, le 69 boulevard Poniatowski, qui est actuellement barricadé et laissé quasiment en ruine. Tous ces lieux-là étaient aussi des lieux de la FEANF et des lieux de connexion, de liaison entre les étudiants africains et africaines. Alors, on pouvait être à la FEANF tout simplement en venant aux Nuits de l'Afrique qu'organisait la Fédération. On pouvait être beaucoup plus impliqué et prendre la parole au meeting, mais il semble que les femmes ont quelquefois eu beaucoup de mal à s'imposer, ce qui n'était d'ailleurs pas le seul cas des étudiants africains à l'époque, hein. C'était vrai pour tous. Et par exemple, au niveau du comité exécutif, il y a 5% de femmes sur l'ensemble de la période, ce qui est très très peu. Mais celles qui étaient avaient parfois une aura et un charisme extraordinaire.
Comme Germaine Pitroipa. Autre dimension de la FEANF, sa dimension panafricaine, elle l'a bien exprimée, et aussi le fait que le statut même du migrant à ce moment-là a évolué, parce qu'au départ il était sujet de l'Empire, et puis il est devenu citoyen, et puis alors, faites-nous un petit peu l'article, par quelle phase finalement les gens sont-ils passés ?
C'est une chose très très curieuse et il me semble qu'on en a pas assez parlé, on l'a pas assez travaillé. La période des années 60, c'est vraiment celle de ce que je pourrais appeler le détricotage de l'Empire. C'est-à-dire, au début, les étudiants africains, s'ils étaient arrivés en France à la fin des années 50, ils étaient citoyens français. 60 arrivent, paf, ils deviennent des étrangers. Mais ils restent des étrangers à statut un peu particulier parce que la France et leur pays d'origine ont signé des conventions de circulation et d'établissement. C'est vrai aussi pour les travailleurs. Sauf que tous les pays africains n'avaient pas signé ces conventions. mais que le gouvernement français, et ça j'ai retrouvé pas mal de textes là-dessus, voulait garder la même situation pour tous les pays africains. Donc, ils pouvaient aller venir comme ils voulaient, ils pouvaient s'installer et travailler comme ils voulaient. Ils étaient des étrangers, mais très particuliers. Et à partir des années 74-76, tout change, plus de convention de circulation, ils deviennent, cette fois-ci, des immigrés ou des migrants.
Autre dimension panafricaine de la lutte, celle qui a peut-être le plus mobilisé, bien que très tardivement aussi, dans les Afriques et au-delà, c'est la lutte contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Écoutez la voix de la première femme à avoir présidé le Conseil de sécurité des Nations Unies, il s'agit de la Guinéenne Jeanne Martin-Cissé.
Je pense que la première action que nous devons mener, c'est une action de sensibilisation de l'opinion internationale. Parce que jusqu'ici, si les Nations Unies se sont préoccupées du problème de l'apartheid, les masses sont très peu informées de ce que c'est que l'apartheid en réalité, surtout dans les pays de l'Europe occidentale. Ils ne savent pas ce que c'est que l'apartheid, ils ne savent pas le sort ignoble réservé aux femmes et aux enfants. Évidemment, quand j'ai les femmes et les enfants, les hommes noirs aussi subissent l'apartheid, ils souffrent de l'apartheid. Mais les femmes, en tant que triplement exploitées, souffrent davantage de l'apartheid. Nous comptons beaucoup sur l'extérieur, sur toutes les femmes de bonne volonté, pour nous aider à mieux faire connaître la lutte et aussi pour aider matériellement les femmes et les enfants en Afrique du Sud, que nous les aidions à les éduquer, les former dans le domaine professionnel pour que demain, quand leur pays aura accédé à l'indépendance, qu'elles puissent être des cadres valables pouvant jouer le même rôle que les hommes.
La voix de Jeanne Martin-Cissé, l'ex-ministre des Affaires sociales de Sékou Touré en Guinée, de 1976 à 1984, elle est une figure emblématique de la lutte pour les droits des femmes africaines et la première dirigeante de l'Organisation panafricaine des femmes. Moi, je trouve que ça rappelle la richesse, encore une fois, des parcours des actrices et des acteurs de la mobilisation. Et Pierre Boilet, vous avez d'ailleurs invité un conférencier pour intervenir sur la question de cette histoire longue des mobilisations. Des liens historiques entre peut-être les mouvements citoyens, comme récemment Yanamar au Sénégal ou encore le ballet citoyen au Burkina Faso. Et on se pose du coup la question de cette histoire longue. Est-ce qu'on est dans une continuité ou est-ce qu'il y a eu vraiment une rupture et est-ce qu'on assiste du coup à un réveil ?
Non, je pense qu'en fait, on est dans une continuité, c'est évident, mais on pourrait poser la question pour n'importe quel autre continent. Est-ce qu'actuellement, on est dans un réveil, un endormissement, une continuité ? Non, je pense qu'il y a eu des mobilisations collectives en Afrique depuis des siècles, depuis toujours, comme en Europe, qu'il y a eu des moments peut-être où c'était moins facile de les connaître, mais actuellement, c'est vrai qu'il y a peut-être une nouvelle globalisation qui rend les choses beaucoup plus transparentes, que d'une certaine façon, les différentes mobilisations dans le monde peuvent aussi s'exporter d'Afrique ou venir en Afrique. L'apartheid en est tout à fait un bon exemple. L'apartheid, ce ne sont pas que les Sud-Africains qui se sont mobilisés. Bien sûr, il y a eu une mobilisation mondiale, collective. Et c'est ça qui est intéressant aussi à étudier, c'est de voir que finalement, ces mobilisations passent totalement les frontières, y compris continentales, et que on est de nouveau bien dans l'absence de ce stéréotype type de l'Afrique non connectée au monde.
Mais se pose également la question du partage des connaissances, Pierre Boilet, parce que les jeunes générations militantes aujourd'hui ont-elles accès à leur propre histoire ? Sont-elles conscientes de leur propre filiation ?
Alors ça, c'est un point effectivement très, très important et très grave, qui nous mobilise beaucoup, mais c'est assez difficile évidemment d'agir. Un peu partout sur le continent, les universités et nos propres collègues ont des difficultés. Les universités sont assez pauvres, il y a des problèmes de documentation, ce qui fait que très souvent, nos collègues, en fait, sont un petit peu obligés de travailler sur des monographies très, très régionales ou des choses comme ça. Bon. Donc ça, c'est un vrai problème, effectivement, de cette transmission et de l'enregistrement finalement de l'histoire locale qui devrait se faire surtout sur place et pas avec les historiens européens ou ailleurs.
Bon, on espère qu'en tout cas RFI contribue à transmettre tout ce vivier de connaissances mobilisées pour cette 6e conférence des études africaines. Les actrices et les acteurs de la contestation, de la résistance et de la révolte sont dans la marche du monde. Ils sont aussi des artistes comme le Nigérian Fela Nicolapo Kuti, le père de l'Afrobeat.
African music will be a success.
La musique africaine est en plein boom. C'est la raison pour laquelle je pratique de la musique africaine.
make African music international.
Cette musique deviendra internationale.
But for me, my music is not for entertainment.
Mais ma musique n'est pas une musique de divertissement.
Upbringing and revolution in Africa.
C'est pour propager mes idées, ma révolution,
traditional and spiritual awareness,
conscientiser sur le plan traditionnel, sur le plan culturel, en Afrique.
Doing this is not, it's really a duty of a musician.
C'est le devoir de l'artiste de faire ce genre de choses.
Because of music. Because if a musician doesn't, if an artist doesn't align himself,
si l'artiste
the problems
ne
society,
propage pas ses idées, il ne fait
because
pas son devoir.
Nice
si la société est
nice
en mauvais état,
nice society,
l'artiste ne peut s'en réjouir.
Our problem in Africa is to organize ourselves. That is what the musician.
Notre problème en Afrique, c'est de nous organiser.
Really,
et l'artiste doit y contribuer.
Focus his art. Most importantly is because in the olden days of Africa,
n'oubliez pas que dans le passé, l'artiste avait un rôle important dans l'histoire africaine.
It's because of the high quality of the African art.
Et n'oublions pas, dans le passé, le haut niveau des arts africains.
The Africans gave up writing at the time.
Fela, père spirituel des artistes engagés et présenté dans cette semaine culturelle de la conférence des études africaines à Paris. Ça s'appelle
Africa Acts.
Merci Dominique Malaquet. Alors votre parti pris?
Je suis absolument convaincue qu'une partie importante de la transmission dont parlait Pierre Boilet se fait à travers l'art, se fait à travers le travail des artistes. Qu'il s'agisse de chorégraphes, comme deux que nous accueillons, Alioune Diagne et Koudou Sonikeku, qu'il s'agisse de personnes comme Ntone Djabé, qui a créé une radio internet qu'on écoute à travers l'Afrique, et qui a pour inspiration première Fela Kuti. Que l'on parle de personnes comme Kapwani Kiwanga, qui imaginent le futur du monde vu à travers l'histoire de la diaspora. Je crois que c'est à partir de là, bien sûr pas seulement, mais je crois qu'il y a un rôle absolument critique à jouer dans la transmission de l'histoire, des perceptions de la rébellion.
Et faire entendre aussi une Afrique dans sa diversité. J'ai le sentiment que c'est une programmation, je dirais, très Afrique de l'Est,
c'est
ou Afrique du Sud.
C'est une programmation qui est plus anglophone qu'elle n'est francophone. Et ça, c'est un parti pris. C'est en partie de nouveau pour penser l'Afrique autrement, pour décloisonner un tout petit peu. Nous avons la chance de pouvoir recevoir relativement souvent des artistes qui viennent du Sénégal, de Côte d'Ivoire, voire du Cameroun en France, mais il est très rare qu'on entende le Nigeria, que l'Afrique du Sud soit là, que la Tanzanie soit là. Donc c'est en partie ce que nous cherchons.
Pierre Boilet, penser l'Afrique autrement, c'est sortir de la France-Afrique.
Oui, d'ailleurs tout à l'heure on entendait la FEANF, on disait tous les pays de l'Afrique sont là, le Sénégal, le Ghana. Bon, enfin bref, on n'entendait que des pays francophones. Je crois qu'il faut vraiment faire attention à ça. J'ai entendu dans un colloque quelqu'un qui parlait de l'Afrique et il parlait que des anciennes colonies françaises. L'Afrique, on l'a dit tout à l'heure, elle n'est pas homogène. Il y a des Afriques, mais elle a aussi donc des parties très différentes les unes entre les autres, des histoires et des cultures qui peuvent être très différentes. Donc je crois qu'il faut aussi montrer ça et montrer qu'il n'y a pas, encore une fois, une Afrique, mais des Afriques.
Vous l'avez cité, Dominique Malaquet, Tony Njabé, il est Camerounais, il vit à Cape Town. En Afrique du Sud, il est directeur de la revue Chimurenga le jour et il est DJ la nuit.
Généralement, le discours sur l'Afrique est simpliste. Tout doit être simple. Ce pauvre noir, c'est une victime. Il faut que ce soit simple. D'une certaine manière, c'est ce que représente l'Afrique dans la conscience globale. Si c'est complexe, les gens ne comprennent pas. Ils ne savent plus dans quel sens regarder. Nous essayons de nous engager dans le vivant. Nous essayons de représenter la vie dans toute sa complexité.
Présenter la réalité à la hauteur de sa complexité, c'est aussi ça penser, c'est aussi ça le boulot des chercheurs. Mais faut-il encore trouver la pédagogie pour la transmettre? De quelle façon, justement, Tony Njabé a-t-il trouvé une pédagogie pour transmettre sa vision panafricaniste à travers sa revue?
Chimurenga est sans doute ce qui se fait de plus intéressant en termes de revue qui lie l'art et la politique où que ce soit. Elle se trouve être basée en Afrique, mais en général, elle fait des choses absolument extraordinaires et c'est à partir du parti pris, non seulement de la complexité, mais de ce qu'il nomme l'opacité, faisant référence à Glissant, c'est-à-dire à la notion qu'on n'est pas obligé de s'expliquer constamment, qu'on n'est pas obligé de dire, il l'a dit très souvent à propos de Chimurenga, d'expliquer qu'on veut ouvrir les esprits. C'est très bien d'ouvrir les esprits, mais on a aussi un désir de faire, dit-il, parce qu'on est vivant, parce qu'on veut montrer que dans ces Afriques, il y a complexité, il y a rêve, il y a imaginaire, il n'y a pas seulement la guerre, il n'y a pas seulement la famine. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément présent dans Chimurenga.
Donc c'est une revue, donc c'est au-delà de l'actualité, on s'intéresse à des sujets pas forcément parce qu'ils sont justement dans l'actualité, c'est donner de l'air, donner de l'espace aux pensées africaines.
Absolument. Le dernier numéro, qui est un numéro en arabe, porte sur les liens entre l'Afrique au nord du Sahara et, par exemple, l'Afrique du Sud. Et il y a un article absolument extraordinaire qui porte sur l'Afrikaans, écrit en caractère non latin, et qui montre combien il y avait un lien entre l'Afrikaans et les communautés musulmanes dans une Afrique du Sud qu'on imaginait complètement écartelée. Il s'agit de montrer les liens, les complexités, la richesse de communautés qui ont été très souvent à l'avant de la contestation et dont on n'entend absolument pas parler quand on parle justement de la lutte contre l'apartheid. Il n'est absolument pas question de ce genre de choses-là. Et voilà ce que fait Chimurenga.
Autre signature, celle du chorégraphe-performeur Kudus Onikeku, formé à l'école du cirque à Paris. Il danse, il s'interroge sur sa place dans la société en tant qu'artiste.
Quand je suis venu en France, je faisais beaucoup de performances dans de grands théâtres très beaux avec de bons équipements. Et je me suis demandé, mais pourquoi je danse? Et pour qui? C'est ce questionnement qui m'a remis dans la réalité. Quand je suis rentré au Nigeria, j'ai réalisé que je dansais dans des centres culturels français. Mon auditoire, c'était uniquement des Blancs, tous des étrangers. Donc comment je pouvais me sentir chez moi? Comment chercher de nouvelles voies, de nouveaux espaces? Et comment je pouvais rencontrer mon public nigérian? C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. Si je décide de faire mon propre chemin, en dehors de la culture française, du système, où vais-je me retrouver? Je me suis dit que j'allais me trouver dans la rue, dehors. J'avais peur au début. Et tout le monde m'a dit, pourquoi pas? Essayons. Donc c'est de ce questionnement et de cette peur que le projet est né.
Ils sont artistes, ils sont africains, ils sont engagés, ils sont des performeurs. On va les voir dans les rues de Paris, Dominique Malaquais.
Oui, on va voir notamment, petite note à la mairie de Paris et à la préfecture, donnez-nous la permission, nous allons les voir sur la place de la Sorbonne et la place de la République, notamment Djelil Yatikou, qui est nigérian et qui est le fondateur de la première biennale de performance en Afrique et qui va traiter de la question du réchauffement climatique et du genre de contestation qui est absolument nécessaire pour changer la donne.
Alors Pierre Boilet, une histoire longue de la contestation, c'est un des fils évidemment de l'ECAS cette année, mais c'est aussi avec des voix polyphoniques qui viennent d'Europe, qui viennent d'Afrique, qui viennent du monde anglo-saxon, et c'est aussi intergénérationnel parce qu'il y a toute cette jeune génération de chercheurs qui est peut-être un peu plus décolonisée dans son esprit que l'ancienne. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il fallait sortir de ce précaré français. Qu'est-ce qui vous excite dans ce que proposent justement les jeunes chercheurs sur cette question des mobilisations africaines?
Alors d'abord, effectivement, c'est une conférence européenne des études africaines, mais il y aura bien sûr des Européens de partout en Europe, y compris de l'Europe de l'Est d'ailleurs, mais aussi des gens qui vont venir de partout dans le monde. Il y aura des Japonais, des Australiens, des Américains, et bien sûr aussi un certain nombre d'Africains, pas assez à notre goût, mais encore faut-il pouvoir les aider à venir, ce qui n'est pas toujours évident parce que nous sommes quand même relativement contraints. Et puis, c'est vrai, des générations différentes, et on voit bien que de génération en génération, la décolonisation se fait dans les têtes, et qu'elle maintenant, elle est quasiment pas abouti, je dirais, parce qu'en réalité, je pense qu'on n'est pas encore rentré dans une France vraiment postcoloniale, mais néanmoins, je pense qu'Ophélie a dans la tête peut-être moins de vestiges de la colonisation que moi j'en avais, et j'en avais moins que ma directrice de thèse elle-même, qui était Catherine Cochery. On a même fait un panel à Philadelphie là-dessus, pour s'amuser, pour voir aussi comment les choses pouvaient avancer, et de fait, par exemple, la génération des gens qui ont maintenant 70, 75 ans, ont été dans des luttes anticoloniales, mais avaient aussi beaucoup de paternalisme. Hein, et les choses évoluent malgré tout. Et c'est vrai que tous ces jeunes chercheurs sont vraiment un espoir extraordinaire parce qu'ils apportent des tas d'idées nouvelles et une très grande qualité de travaux.
Merci Pierre Boilet, Dominique Malaquet, Françoise Blum et Ophélie Rillon. Et j'invite nos chers auditeurs et auditrices à retrouver le programme du colloque et des performances artistiques de cette 6e conférence des études africaines sur la page de la Marche du Monde sur RFI.fr et sur notre Facebook. Penser l'Afrique autrement, c'est une première émission en partenariat avec l'ECAS, la Conférence Européenne des Études Africaines. La suite, la semaine prochaine, avec les artistes Onenja B, Kudus Onikeku et avec Dominique Malaquet. Penser l'Afrique autrement est une édition de la Marche du Monde réalisée par Cécile Pompeani avec les archives de RFI. Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook de l'émission podcastée. Cette émission, c'est la vôtre.